Jeudi 14 mai 1925. Les deux derniers jours auraient été idéaux pour tenter d'atteindre le sommet. C'est la première fois depuis qu'il est dans notre ligne de mire que l'Everest a cessé de fumer pendant aussi longtemps. Même les vents le long de l'arête nord-est ont paru se calmer. Aujourd'hui, la température au col nord avoisine les moins 5 degrés Celsius. Les bourrasques de la semaine dernière ont balayé la plus grande partie de la neige sur les rochers de l'arête, et même le grand couloir paraît avoir rétréci. Mais aucun de nous n'est sur la montagne. Tout notre groupe, les Sherpas, le docteur Passang, Lady Bromley-Montfort, le diacre, J.C. et moi, traversent péniblement la vallée pour parcourir les 16 kilomètres séparant le camp de base du monastère du Rongbuk, où Dzatrul Rinpoche présidera à une cérémonie de bénédiction. Le diacre est furieux d'avoir dû renoncer aux deux meilleures journées d'escalade du mois, et peut-être même de l'année. Ça se voit à ses lèvres minces et pâles et à son expression tout en tension contrôlée. Jean-Claude et moi nous attendons à ce qu'il retourne cette colère contre nous deux. De leur côté, les Sherpas paraissent heureux, comme s'ils profitaient d'une journée de vacances. Aucun n'a semblé particulièrement attristé par la mort de Baburita. Quand j'interroge Passang à ce propos, le Sirdar médecin répond « Si c'était le destin de Baburita de mourir sur la montagne, ils estiment que sa mort était inévitable et qu'il n'y a aucune raison de le pleurer. Aujourd'hui est un jour nouveau. Dans ce cas, pourquoi sont-ils si désireux d'obtenir la bénédiction du saint homme du monastère? Si tout est prédestiné, qu'est-ce que ça change? » Passang esquisse un petit sourire. « Ne me demandez pas de vous expliquer les contradictions internes si courantes dans toutes les religions. » Hier, nous avons enveloppé le corps de Babou dans la toile de tente la plus propre et la plus blanche que nous avons pu trouver, et les Sherpas du camp de base l'ont installé sur une civière attelée à un yak. 6 Sherpas, emmenés par Passang, sont partis à dos de poney au monastère pour escorter la dépouille de Babou. Ne sachant pas trop quoi faire, ni si nous serions conviés à la cérémonie funéraire que Dzatrul Rinpoche, selon les dernières volontés du défunt, choisirait pour lui, Jean-Claude et moi avons pris des charges de vivres et d'oxygène, ainsi que le paquet contenant la mystérieuse bicyclette de mon ami, et les avons portés sur les 15 kilomètres jusqu'au camp 3, traversant l'Auge et le glacier du Rongbuk Est. En apprenant que Reggie et le diacre étaient partis au camp 4 ou plus haut, nous avions fait prévenir ce dernier de la mort de Babou, bien sûr, mais il nous avait renvoyé un message disant que puisque nous ne nous chargerions pas du service funèbre de Babou, il resterait dans les camps en altitude. J.C. et moi avons légèrement réduit nos paquetages, Jean-Claude ne portant guère plus que sa mystérieuse bicyclette dans son immense sac, et suivi les cordes fixes et les échelles jusqu'au col nord. Nous sentant coupables de plein de choses, nous avons décidé, sans en discuter, de ne pas utiliser d'oxygène durant cette escalade du mur de glace, mais de l'économiser pour que d'autres puissent s'en servir dans les jours à venir. 2 Sherpas nous accompagnaient. J.C. leur a demandé de rester avec lui au bord de la corniche de glace et m'a dit « Continuez vers le camp 4. Je vais installer ma bicyclette ici avec l'aide de Dorje et de Namgya. Je vous rejoindrai quand nous aurons fini. » Arrivé au camp 4, après avoir traversé l'étendue d'un blanc incandescent du col nord, j'ai appris par Reggie que le diacre et 4 Sherpas, dont Tenzing Bhotia et Tejbir Norgay, venaient juste de revenir. Ils avaient gravi la première section de l'arête nord et planté 2 tentes sur le site choisi pour le camp 5, juste à l'endroit où l'arête s'aplanit très légèrement, à une altitude légèrement supérieure à 7600 mètres. Le visage brûlé par les rayons ultraviolets, le diacre était tout sourire. Si le beau temps se maintient, nous pourrons tenter le sommet à partir du camp 5 demain ou après-demain. Reggie, arrivé une heure plus tôt du camp 3 avec d'autres charges portées par 4 Sherpas, a semblé dubitative. Le col nord, derrière elle et autour de nous, irradiait de chaleur et de lumière blanche. J'ai pris soin de garder mes lunettes crook en vert teinté. Le diacre dévorait son déjeuner, soupe de pommes de terre, langue et chocolat. Quand il a suggéré que nous retournions au camp 3 dans l'après-midi, puis remontions au camp 4 le lendemain pour passer la nuit du jeudi au camp 5. si le temps demeurait aussi calme qu'il l'était, nous pourrions partir au milieu de la nuit pour tenter d'atteindre le sommet le vendredi 15 mai. Mes lampes de mineur gallois auront donc peut-être une utilité ? A fait remarquer Reggie, une pointe d'ironie dans la voix. Trop excité pour arguer, le diacre s'est contenté de sourire et a dit « Les deux tentes mythes que nous venons de monter au camp 5 peuvent loger 4 personnes au maximum. Je propose que nous partions à 2 cordées aux premières heures du jour vendredi. Tenzing Botia et moi dans la première, vous, Jake et Jean-Claude, dans la deuxième. Nous utiliserons tous de l'oxygène. Au débit minimum, nous devrions avoir entre 15 et 16 heures et demie d'air en bouteille. Soit assez de temps pour atteindre le sommet et redescendre au camp 5 avant le crépuscule. « Où est ma place dans ce plan ?» a demandé Reggie. Le diacre l'a dévisagé sans répondre. « Vous vous étiez engagé à chercher des traces de Percival au cours de l'ascension, » a-t-elle insisté. « Eh bien, je dois vous accompagner pour m'assurer que nous cherchons vraiment. » Le diacre a froncé les sourcils en continuant de manger son chocolat. « Il n'a jamais été question que vous veniez au sommet, Lady Bromley-Montfort. Ça ne fait pas partie du plan. »
« Ça fait partie de mon plan, Monsieur Deacon. »
Encore essoufflé après l'ascension sans oxygène, je n'ai pas participé à la discussion. Mes pensées n'allaient pas au sommet de l'Everest. Elles demeuraient concentrées sur le visage sans vie de Babu Rita et ses yeux fixes. C'est alors que nous avons vu Pemba Sherpa remonter la piste balisée traversant le col nord, suivi par JC et ses deux Sherpas. Plus personne n'a parlé avant qu'il nous ait rejoints. Pemba était porteur d'une nouvelle stupéfiante. Dzatrul Rinpoche nous avait fait prévenir que nous devions tous nous rendre au monastère du Rongbuk le lendemain, jeudi, pour recevoir sa bénédiction. L'inhumation céleste de Babu Rita, nous a dit Pemba, se tiendrait au lever du soleil le vendredi, mais seule la famille de Babu y était conviée.
« Bon sang !» s'est écrié le diacre. « La meilleure météo de toute l'année ! Nous sommes à ça de pouvoir conquérir le sommet ! Avec un temps plus favorable que George Mallory n'en a jamais eu ! Et ce vieil abbé bouddhiste nous somme de nous présenter devant lui ! Qu'il aille au diable ! Je n'irai pas !»«
Nous irons tous !» a dit Reggie.
« Ce ne sont pas les funérailles de Babu !» a objecté le diacre. « Juste une satanée bénédiction pour laquelle il nous faudra payer, en donnant 2 roupies à chacun des Sherpas pour qu'ils aient de l'argent à offrir à ce foutu chef lama pour chaque foutue bénédiction !»« Je l'ai déjà fait 2 fois. Je me sens bien assez béni comme ça. Je préfère monter au sommet de l'Everest par ce temps plutôt que de passer toute la journée assis dans ce monastère puant. »
« Nous allons tous devoir descendre, » a dit Reggie. Elle paraissait presque soulagée.
« Pas moi !»
Le diacre a repoussé brusquement sa casserole qui a heurté la glace avec un bruit métallique à côté du petit réchaud Una.
« Vous comptez atteindre le sommet sans l'aide des Sherpas ?» lui a-t-elle demandé.
« S'il le faut, je le ferai. »
Il nous a regardés, JC et moi. Nous serons 3 sur la cordée, mes amis, et nous ne porterons que les appareils à oxygène, des vêtements de rechange et des vivres dans nos poches en montant au camp 5 demain. Reggie a secoué la tête.
Non seulement ce serait une insulte à Dzatrul Rinpoche, monsieur Deacon, mais votre tentative d'arriver au sommet le jour de la bénédiction du saint homme vous coûterait la loyauté de tous vos Sherpas. Ils l'ont déjà attendu assez longtemps. Snober le lama et essayer de conquérir l'Everest sans la bénédiction de Dzatrul Rinpoche, et nombre de nos compagnons quitteront l'expédition ici et maintenant.
« Nom de Dieu !»
s'est écrié le diacre.
« Jake, Jean-Claude, vous viendrez avec moi, n'est-ce pas ?»
Je savais ce que Jean-Claude allait dire avant même qu'il prenne la parole.
« Non, Richard. » Nous descendons avec Reggie et les hommes pour la bénédiction et pour rendre hommage à Babu Rita.
Le temps est au beau fixe lorsque nous quittons le camp de base, jeudi de bonne heure, pour parcourir les 18 kilomètres jusqu'au monastère. À cause de leur gelure, Angshiri et Lakpa Yishei sont montés sur des mulets conduits par leurs amis, celle de Lakpa étant plus grave que nous le pensions au début, l'amputation de certains doigts et orteils des deux Sherpas avait été remise au lendemain. Le docteur Passang et Reggie chevauchent côte à côte sur des poneys. Le diacre marche seul, suivant facilement l'allure tranquille des bêtes, le visage aussi fermé que le pont-levis d'un château fort encerclé par une armée ennemie. Éperonnant mon poney, je rejoins Reggie et Passang et les interroge sur le monastère et son abbé.
Dzatrul Rinpoche est la réincarnation de Padmasambhava,
dit-elle. Devant mon regard vide, elle ajoute
« Vous avez vu des images de Padmasambhava lorsque nous avons traversé le Tibet, Jake. C'est le dieu à neuf têtes. »
« D'accord. »
Le monastère du Rongbuk est le plus haut monastère du Tibet, du monde entier d'ailleurs. Des fidèles y viennent sans arrêt en pèlerinage. Certains se prosternent tous les quelques mètres, sur des centaines de kilomètres. Et les collines qui nous entourent sont percées de grottes abritant de saints hommes qui ont renoncé au monde. D'après certains lamas du monastère, au bout d'un grand nombre d'années, ces ermites, qui vivent presque nus même durant les hivers les plus rigoureux, réussissent à survivre en mangeant 3 grains d'orge par jour.
Me tournant vers le docteur Passang, je lui demande « Vous croyez à tout ça ?» Passang sourit.
« Ne me demandez pas à moi, Monsieur Perry. Je suis catholique. Je le suis depuis tout petit. »
Il est assez poli pour faire semblant de ne pas remarquer mon évidente stupéfaction.
« À votre avis, quel âge a le monastère, Jake ?»
me demande Reggie.
« Essayez de deviner. »
Le temple, ses chotons délabrés et autres monuments m'avaient paru très anciens lorsque nous nous y étions arrêtés sur le chemin du camp de base.
« 1000 ans ?» L'abbé actuel, Dzatrul Rinpoche, a commencé la construction il y a seulement 24 ans. Dit Reggie. Il avait 35 ans et s'appelait alors Ngawang Tenzing Norbu. Il a réussi à obtenir le patronage de marchands de Tingri et de Sherpa, vivants et enseignants de l'autre côté du Dangpala et d'autres cols, dans le Solukhumbu au Népal. Certains ici l'ont surnommé Sangye, ou le Bouddha du Rongbuk. Mais il s'est choisi le nom de Dzatrul Rinpoche, vivante incarnation du légendaire gourou Rinpoche, le grand maître, et maître spirituel du Chod.
Qu'est-ce que c'est que le Chod?
Une pratique spirituelle bouddhique. Littéralement, ça signifie couper le lien qui nous attache à l'illusion qu'est le monde. Le Chod a d'abord été pratiqué ici, dans la vallée du Rongbuk, par Mashik Labdron, une yogini du XIe siècle. Une sorte de sorcière tantrique. Mashik Labdron était connue comme une lettrée bouddhiste dès l'âge de 7 ans. Et elle a consacré le reste de sa vie à libérer son esprit de tout intellect.
J'ai parfois l'impression d'avoir fait la même chose, dis-je. Ma culpabilité, suite à la mort de Babu, sans parler des amputations imminentes d'Ang et de Lakpa, toutes dues à nos piètres qualités de meneurs, à JC et moi, augmente d'heure en heure. Reggie me jette un regard pénétrant.
Mashik Labdron est venu à Rongbuk il y a 900 ans pour briser toute orthodoxie avec ses techniques du Chod. Elle enseignait que c'était seulement dans des endroits effrayants et inhumains comme le Rongbuk et ses montagnes glacées, ou dans l'atmosphère hantée des charniers, des cimetières ou des sites d'inhumation céleste, dans les environnements les plus fétides, désolés et exposés, que l'on pouvait espérer connaître la véritable transformation spirituelle.
Je réfléchis à tout ça pendant que mon poney continue d'avancer qu'à un quart. Les toits bas du monastère du Rongbuk viennent juste d'apparaître au loin. Passang dit
« Mashik Labdron a un jour écrit « On ne peut atteindre la libération sans connaître les pires aspects de la réalité. Allez errer dans les endroits sinistres et les retraites en montagne. Ne vous laissez pas distraire par les doctrines et les livres. » Faites seulement l'expérience vraie, dans l'horreur et la désolation.
En d'autres termes, dis-je,
affrontez vos démons. Exactement,
acquiesce Reggie.
Faites don de votre corps aux démons de la montagne et de la nature sauvage. C'est le meilleur moyen pour chacun de détruire les derniers vestiges de sa vanité et de son orgueil.
Je peux en témoigner, dis-je.
En tant que maître spirituel du Rongbok et adepte du Chod, dit Basang, Dzatrul Rinpoche a envoyé plus de 1000 fidèles en quête de sagesse dans les montagnes pour affronter les démons. La plupart ne sont jamais revenus et sont supposés avoir atteint l'illumination dans leurs grottes et leurs abris en altitude.
On peut ajouter 4 noms à cette liste, marmonnai-je. Je pense à Mallory, Aervin, Bromley et maintenant Baburita. Plus fort, je demande.
Dzatrul Rinpoche donne-t-il des conseils sur l'attitude à adopter face au Yeti?
Reggy sourit.
Justement. Un jeune prétendant à 7 lui a un jour demandé ce qu'il devrait faire si un Yeti apparaissait à l'entrée de sa grotte. Le maître a répondu, « Eh bien, invite-le à entrer prendre le thé, bien sûr. »
Avec cette image en tête, nous restons silencieux jusqu'à la fin du trajet, jusqu'au monastère du Rongbok. On nous fait attendre dans une antichambre du rez-de-chaussée pendant environ 1 heure et demie, et les grands prêtres nous apportent un déjeuner composé de yaourt, de riz et de ce thé au beurre très épais et presque écœurant qu'ils boivent ici. Les bols en bois sont propres, mais les baguettes ont été réduites à de fines pointes par d'innombrables dents. On nous sert aussi des radis trempés dans du poivre noir, tellement épicés qu'ils me font monter les larmes aux yeux. Enfin, on nous conduit à l'étage. Nos sherpas nous suivent, tête baissée, sur le toit à demi couvert où Dzatrul Rinpoche nous attend sur un trône de métal qui ressemble étonnamment à un cadre de lit en fer rouge. Passang et nous, les saïbs, sommes invités à nous asseoir sur des bancs richement capitonnés de chaque côté de l'alcôve, mais la plupart de nos sherpas tombent à genoux sur la pierre froide, le regard et le visage tournés vers le sol. Je commence à comprendre qu'il ne fait pas bon regarder dans les yeux un dieu incarné. Mais je ne peux pas m'en empêcher. La première chose que je remarque chez Dzatrul Rinpoche, réincarnation de Padmasambhava, c'est sa tête étonnamment massive, qui m'évoque une énorme citrouille. Le diacre m'a dit que le principal souvenir qu'il gardait du saint homme était son grand et beau sourire engageant. Le sourire est toujours en place, sur le visage bien trop large, mais il semble que le lama ait perdu un certain nombre de dents depuis la visite de mon ami. Le Rinpoche a une voix très basse et rauque, comme enrouée après d'interminables heures de chant, et je me rends soudain compte qu'il n'est pas en train de psalmodier une prière, mais de poser une question à Reggy ou au diacre ou aux deux. Elle la traduit.
Dzatrul Rinpoche voudrait savoir pourquoi nous tentons de nouveau de gravir le Chomolungma après la mort de tant d'autres saïbés de Sherpa.
Vous pourriez lui répondre « Parce qu'il est là », suggère le diacre. Son visage est toujours sombre et tendu.
« Je le pourrais », dit Reggy, « mais je ne le ferai pas. » Y a-t-il une autre réponse que vous voudriez donner avant que j'invente la mienne ?
Allez-y, grommelle le diacre. Reggy se tourne vers le saint lama et lui répond dans son tibétain rapide et mélodieux. Le Rinpoche sourit encore davantage et incline légèrement la tête. « Vous venez de lui dire que nous sommes là pour retrouver et honorer le corps de votre cousin Percival, » dit le diacre d'un ton accusateur. Reggy lui jette un coup d'œil.
« Je vois que vous connaissez des rudiments de tibétain, monsieur Deacon. Si vous ne voulez pas que je réponde, allez-y, parlez à sa sainteté sans passer par mes traductions. »
Le diacre se contente de secouer la tête, l'air encore plus renfrogné qu'avant. Le Rinpoche reprend la parole. Reggy lui adresse un signe de tête, puis traduit ses propos à notre intention.
Sa sainteté nous rappelle que les hauteurs du Chomolungma sont très froides et remplies de puissances dangereuses pour ceux qui ne suivent pas la voie. Il n'y a rien à faire là-haut qui en vaille la peine, nous dit-il, sauf la pratique du Dharma.
Demandez-lui humblement sa bénédiction et sa protection, dit le diacre. Et assurer sa sainteté que nous ne tuerons aucun animal durant notre séjour sur le glacier du Rongbok. Reggy obéit. Le Rinpoche hoche la tête comme s'il était satisfait, puis ajoute autre chose à l'intention de Reggy qui lui répond directement. « Je n'ai pas saisi, » murmure le diacre.
Sa sainteté dit que les autres moines et lui vont procéder à un puissant rituel de sanctification ici au monastère pendant les 2 prochaines semaines. Et il nous avertit que cette pratique réveille toujours les démons et les déités en colère de la montagne.
Remerciez-le pour la mise en garde, je vous prie, dit le diacre. Régis exécute, après quoi le lama se lance dans une longue tirade. Elle l'écoute, incline la tête, puis sa réponse fuse en un tibétain presque musical. Quoi ? Demande le diacre.
Sa sainteté me complimente, explique Reggie. Il dit qu'à chacune de nos rencontres, il est de plus en plus sûr que je suis la réincarnation de la sorcière tantrique Machik Labdron, et que si je perfectionnais ma pratique du Chod, je pourrais être la maîtresse du Chomolungma et de toutes les montagnes et vallées voisines.
Qu'avez-vous répondu ? Demande le diacre. J'ai seulement compris le mot tibétain signifiant indigne.
Oui, j'ai répondu que je n'étais pas digne d'une telle comparaison. Mais j'ai admis que la discipline du Chod me paraissait très attirante en ce moment. Car comme j'ai eu l'occasion de vous le dire, le monde actuel me pèse. Puis-je poser une question ?
Murmure Jean-Claude.
Une seule, je crois, dit Reggie. Il faudrait commencer la cérémonie de bénédiction si nous voulons être rentrés au camp de base à l'heure du souper. Je me demandais juste,
dit Jean-Claude d'une petite voix,
si Chomolungma veut vraiment dire déesse mère du monde, comme l'ont prétendu le colonel Norton et les autres.
Reggie sourit et transmet la question au lama à tête de citrouille. Le vieil homme, il a 60 ans mais en paraît davantage, sourit encore et répond de sa voix mélodieuse de récitant.
Pas vraiment, traduit Reggie. Et sa sainteté vous remercie de poser la question. Il dit que les saïbs ont tendance à adopter les traductions qui leur plaisent pour les lieux saints de la région et à ignorer les noms véritables. Pour ceux qui vivent à côté, dit-il, le nom tibétain le plus courant de la montagne est Kang Chomolung, qui signifie plutôt « neige du pays des oiseaux ». Déesse mère du monde est une interprétation assez infidèle et surtout très réductrice. Une traduction plus précise de Chomolungma, dit sa sainteté, serait au pic que l'on distingue de 9 directions à la fois, mais qu'on ne voit plus quand on s'en approche, une montagne si haute que tous les oiseaux qui la survolent deviennent aveugles sur le champ.
Jean-Claude et moi échangeons un regard. Est-ce que le lama se paie notre tête ? La voix grave de Dzatrul Rinpoche reprend sa litanie et Reggie traduit.
Sa sainteté a décidé que notre défunt, Babu Rita, recevrait une inhumation céleste demain à l'aube. Le saint lama demande s'il y a ici des membres de la famille de Babu qui souhaiteraient rester pour la cérémonie.
Reggie traduit ensuite la question en népalais, mais les Sherpas gardent la tête baissée. Manifestement, aucun ne se sent proche de Babu Rita. Sans nous concerter, ni même se regarder, Jean-Claude et moi nous levons tous les deux et faisons un pas en avant, la tête baissée respectueusement.
Mon ami et moi voudrions être considérés comme des membres de la famille de Babu Rita, dis-je, et nous serions honorés de rester pour les rites funéraires demain matin.
J'entends le diacre siffler entre ses dents. Un peu plus et j'entendrai ses pensées. Encore une journée de perdu pour l'ascension. Je m'en moque, et je suis sûr que Jean-Claude aussi. La mort inutile de Babu m'a profondément secoué. Reggie traduit, et sa sainteté donne sa permission. Puis Reggie ordonne à Norbu Shedi, qui parle un peu tibétain, de rester avec nous ce soir pour nous servir d'interprète. Dzatrul Rinpoche hoche la tête, ajoute encore quelque chose, et Reggie dit
« C'est l'heure de la bénédiction. »
La bénédiction individuelle qui nous est donnée à tous, Sherpa et Saïb compris, prend moins de 45 minutes. Dzatrul Rinpoche psalmodie, je ne sais jamais s'il prononce des phrases ou les chante, puis un lama fait signe à l'un de nous d'approcher pour recevoir la bénédiction. Reggie et le diacre sont appelés en même temps, et l'abbé du monastère leur fait remettre des présents. Une image du 13e Dalai Lama et un morceau de soie pour chacun, trop petit cependant pour s'en servir de foulard. Tous deux s'inclinent très bas, mais ils ne se mettent pas à genoux comme le font les Sherpas. Reggie tape dans ses mains, et 4 de nos Sherpas apportent les cadeaux qu'elle remet au Rinpoche. 4 sacs de ciment. Le saint homme la gratifie encore de son grand sourire, et je me rends compte que le ciment sera très utile pour réparer le Choten et les autres bâtiments relativement jeunes du monastère qui tombent en ruine après avoir été bâtis avec guère plus que de la boue, des cailloux, de la salive et de bonnes intentions.
Les quatre sacs ont constitué le chargement complet d'un mulet, une autre source de conflit entre le diacre et Reggie. Mais à en juger par la réaction de sa sainteté et de ses grands prêtres, c'est un cadeau de grande valeur. Lorsqu'on me fait signe de m'avancer, je m'incline devant le Rinpoché qui me touche la tête avec ce qui ressemble à une poivrière en métal blanc, mais qui est en réalité une autre sorte de moulin à prière, comme me l'a expliqué Jean-Claude. Bientôt, nous sommes bénis tous les quatre, puis vient le tour des Sherpas. Cela prend plus de temps puisque chacun se prosterne sur le sol de pierre, puis rampe jusqu'au saint homme, sans lever la tête ou croiser son regard, pour recevoir sa bénédiction. Pendant tout le rituel, Pasang observe, un fin sourire aux lèvres, dans une attitude respectueuse, quoique légèrement amusée. Aucun moine ne l'invite à approcher. Manifestement, il a déjà dans le passé décliné l'offre de bénédiction. Dzatrul Rinpoche n'a pas l'air de lui en vouloir du tout. Une fois la cérémonie terminée, les Sherpas repartent, sans jamais tourner le dos au Rinpoche ou au grand prêtre, et Reggie traduit les dernières paroles du lama.
Les membres de la famille du défunt peuvent rester pour l'inhumation céleste de demain.
Puis sa sainteté prend congé à son tour. J.C. et moi sortons du bâtiment principal du monastère pour dire au revoir à Reggie, à Pasang et au diacre. Les Sherpas se sont déjà remis en route. Vous allez peut-être regretter d'être resté pour l'inhumation céleste. Voilà tout ce que le diacre trouve à nous dire. Je lui demande pourquoi, mais il m'ignore et donne un petit coup dans les flancs de son poney qui part dans un semblant de galop.
Que savez-vous de ce Padmasambhava dont notre Rinpoche est censé être la réincarnation?
Demande J.C. à Pasang.
C'était un homme ou un dieu?
Il était les deux, répond le médecin.
Au 8e siècle, Padmasambhava a apporté le bouddhisme dans tout le Tibet,
ajoute Reggie.
Il a conquis le Chomolungma avec la vérité du Bouddha. Puis il a vaincu tous les pouvoirs malfaisants des démons, des dieux et des déesses de la montagne, les transformant en dharma protecteurs. La plus sombre et la plus puissante de ces déesses démons, la reine des danseurs célestes Dakini, est devenue le pic blanc du Chomolungma, et ses jupes retombent jusque dans la vallée du Rongbok. Le premier temple bâti dans la région l'a été sur son sein gauche. Sous sa vulve a été enterrée une conque blanche, d'où a coulé jusqu'à ce jour toute la doctrine du dharma et la sagesse bouddhique.
Je sens que je rougis violemment une nouvelle fois. D'abord les testicules, maintenant la vulve. Cette femme est capable de dire n'importe quoi à voix haute.
Si le gourou Rinpoche, le grand maître, Padmasambhava en personne, a vaincu tous les dieux et démons de la région et en a fait des acolytes du Bouddha, pourquoi Dzatrul Rinpoche a-t-il affirmé qu'ils étaient en colère et qu'il intercéderait en notre faveur?
Demande J.C. Reggie sourit avant d'enfourcher son poney.
Les dieux, les déesses et les démons de la montagne ont été domptés pour ceux qui suivent la voie, ceux qui maîtrisent le dharma. Mais les impies et les hommes de peu de foi sont encore en danger. Êtes-vous sûr de vouloir assister à l'inhumation céleste tous les deux?
J.C. et moi hochons la tête. Reggie dit quelque chose à Norbouchedi, puis éprône son poney pour aller rattraper les Sherpas et le diacre, qui disparaissent déjà dans le gris du soir. Le docteur Pasang nous salue avant de la suivre.
Une tempête se prépare, sont ses derniers mots.
C'est vrai qu'il fait gris. Les nuages et la neige sont revenus et la température a chuté.
La mousson, dis-je.
J.C. secoue la tête.
Ce front vient du nord. La mousson arrivera par le sud et l'ouest et se fracassera contre les montagnes de l'Himalaya comme un tsunami sur un maigre brise-lames.
Deux prêtres sortent et s'adressent à Norbouchedi.
Ils vont nous montrer où nous dormirons, nous dit notre Sherpa, et on nous donnera un repas léger de riz et de yaourt.
Les vieux prêtres, il doit leur rester 5 dents à eux deux, nous emmènent dans une petite pièce aveugle, et pourtant pleine de courants d'air, où, d'après Norbou, nous devons passer la nuit avant qu'on vienne nous réveiller à l'aube pour les obsèques de Baburita. Il n'y a qu'une unique bougie, 3 bols de riz, un grand bol de yaourt et de l'eau. 3 couvertures ont été étalées sur le sol de pierre. Avant de s'en aller,
Les deux moines s'arrêtent devant une niche sombre et lèvent haut leurs bougies pour que nous puissions voir la fresque murale.
« Seigneur Dieu, soufflai-je. » Une colonie de démons aux pieds fourchus précipite des grimpeurs dans l'abîme.
Au lieu des feux de l'enfer de Dante, nous contemplons un univers de damnation tout entier fait de neige, de rochers et de glace. La fresque montre un vortex tourbillonnant, tel une tornade de neige, qui entraîne les malheureux alpinistes dans une chute vertigineuse. De part et d'autre de la montagne, l'Everest manifestement, des chiens de garde de proportions gigantesques montrent les crocs, la gueule écumante. Mais l'élément le plus troublant est une silhouette solitaire gisante au pied de la montagne, pareille à une offrande humaine sur un autel. Un corps à la peau blanche et aux cheveux noirs, un saïb. Il a été transpercé par des lances et une hampe le traverse encore, tandis que des démons cornus l'entourent. En nous approchant, J.C. et moi découvrons qu'il a été éviscéré. Il est encore vivant, mais ses entrailles se répandent dans la neige.
Charmant, dis-je.
Les deux moines sourient, nous adressent un signe de tête et s'en vont avec leurs bougies. Nous nous asseyons sur la pierre froide, nous emmitouflons dans les couvertures et essayons de manger notre riz et le yaourt. Le vent qui se lève traverse le temple en mugissant. On dirait le cri d'une femme terrifiée. La température baisse de plus en plus.
Je me demande quand cette fresque a été peinte, dit Jean-Claude.
Seulement l'automne dernier, lui répond Norbouchedi. J'ai entendu des moines en parler.
Après la disparition de Mallory et d'Irvine? Pourquoi?
Norbouchedi donne de petits coups de baguette dans son riz. La rumeur a couru au monastère, à Tingri et dans d'autres villages, que les saïbs avaient laissé beaucoup de nourriture dans leur camp en altitude. Du riz, de l'huile, de la tsampa, plein de provisions.
C'est quoi la tsampa?
De la farine d'orge grillée, répond Norbouchedi. Des villageois et des bergers de la vallée sont donc montés sur le glacier du Rongbuk Est pour mettre la main dessus, mais à peu près à l'endroit où le saïb Dikon et vous avez installé notre camp 3, sept yétis ont bondi de leur cachette dans les grottes de glace et les ont poursuivis jusqu'en bas dans la vallée. Dzatrul Rinpoche a alors fait peindre cette fresque pour servir d'avertissement à tous les fous et les cupides qui suivraient les saïbs étrangers dans ce territoire dangereux.
Merveilleux, lâchai-je.
Nous nous pelotonnons dans nos couvertures, mais il fait trop froid pour dormir. Le monastère renvoie l'écho du sifflement du vent, du claquement lointain de sandales sur la pierre, d'un chant lugubre et du roulement incessant des moulins à prière. Sans avoir besoin de le dire, nous décidons d'un commun accord de laisser la bougie allumée entre nous et la fresque.